deux pas de chez toi.
Voir qu'on redonne des sourires, ça fait toujours plaisir.
Votre magazine de reportages, de témoignages, à la découverte de Reims, ses habitants, ses habitantes et de ses alentours.
Faire ce qu'on veut, quand on veut.
On rencontre des personnes différentes, très différentes les unes des autres. Et c'est génial aussi.
À deux pas de chez toi.
Pour qu'ensemble nous puissions créer un nouveau monde dans lequel les femmes sont plus solidaires, plus unies, pour créer un monde où règne l'amour, la solidarité, l'entraide.
Prenez le temps d'explorer ce qui se fait sur notre territoire avec Radio Primitive.
Et bienvenue dans À deux pas de chez toi. Au programme de notre émission cette semaine, l'APF France Handicap organise une action le 30 juin prochain sur le parvis de la gare de Reims. Nous en parlerons juste après la présentation d'une BD collective rémoise, Caniche Laser.
On se retrouve aujourd'hui avec Tommaso Montagnani, je dis bien ?
Oui, c'est parfait.
Parfait.
Bravo.
Et avec Mo, bonjour Mo.
Salut.
Et on est là pour parler un petit peu de Caniche Laser. Donc Caniche Laser, qu'est-ce que c'est ? C'est une BD collaborative et c'est toi, Tommaso, qui est venu, qui vient nous en parler. Mais on va essayer de voir un petit peu qui tu es parce que c'est vrai que tu as une double casquette, artiste musical et aussi illustrateur.
Bah ouais. Oui. Moi, je te connais en tant que musicien, Tommaso, mais je savais pas qu'il y avait d'autres talents. Qu'est-ce qui est venu en premier ? Le dessin, la musique dans ta vie
La musique, bien sûr. Je suis musicien depuis toujours, illustrateur depuis relativement peu. C'est une passion que j'ai découverte sur le tas, mais qui a vraiment pris beaucoup de place dans ma vie et que j'essaie souvent d'utiliser aussi dans ma vie, dans ma pratique musicale. En faisant des créations, il y a à la fois musique, illustration. Ouais, de temps en temps, j'ai la chance, comme dans les cas des Caniche Laser, d'être invité sur des projets où il y a d'autres artistes, des vrais illustrateurs. Et voilà, moi, je me sens un petit peu l'imposteur là-dedans.
Non, il n'y a pas d'imposteur dans un projet comme ça. Tout le monde est bienvenu, je pense.
Oui, absolument. C'est un projet extraordinaire. Et d'ailleurs, les autres artistes que je vais citer là, tout à l'heure, ils ont tous plein de casquettes aussi, il y a des musiciens, il y a des tatoueurs.
On est vraiment sur le terme artiste au général, au sens large.
Oui, complètement.
Comment tu définirais ton style du coup, ton coup de crayon pour ceux qui, celles qui ne connaissent pas ?
Ah, je dirais que ce qui me concerne, c'est l'influence principale, c'est la BD. Donc c'est de l'illustration relativement réaliste, notamment... je suis passionné des BD italiennes des années 70 et du coup françaises aussi parce que cette époque-là, BD italienne et française étaient plutôt connectées. Ouais, il y avait tout un mouvement qui était lié aussi à cette époque historique, absolument extraordinaire d'un point de vue créatif, humain, etc. Et donc j'adore dessiner des personnages. Pas trop les décors, les paysages, mais je suis vraiment focus sur les êtres humains et les animaux qui les accompagnent. Et c'est pour ça, quand on s'est réparti les planches dans les projets Caniche Laser, j'ai tout de suite choisi, avant que ce soit pris par quelqu'un d'autre, tout de suite choisi la partie où il s'agissait d'illustrer une rencontre entre deux personnes et un dialogue. C'est un peu l'aspect qui m'intéressait le plus.
Avant de mieux décrire ce projet collaboratif, de parler de tous les amis qui vont t'accompagner sur ce projet et de quoi ça va parler, bien sûr, comment toi tu t'es retrouvé aspiré dans cette aventure ? Ils sont venus te chercher comment ?
Alors, j'étais une des éditions passées du Gabarit Fest, la dernière peut-être, celle de l'année dernière. Et donc, j'ai participé, j'ai encore une fois le plaisir de participer au marché des artistes qui a tous les ans au Gabarit Fest. Donc, j'ai exposé mes dessins. Et c'est comme ça qu'il y a eu Sébastien Pia Gomez qui est le promoteur de cette initiative. Donc, Sébastien qui a créé Bocal, média associatif indépendant, qui s'occupe un peu de la vie culturelle rémoise.
En effet.
et qui a eu cette idée de BD participatif. Donc on a bien échangé avec lui. Moi, j'ai adoré son énergie. En plus, comme il est photographe, il a travaillé sur un projet sur lequel je suis musicien. Donc on s'est revus dans d'autres contextes.
Donc vous connaissez déjà en dehors de la BD.
Et c'est aussi un excellent photographe parmi ses autres talents. Et donc, moi, j'étais ravi. Il m'a proposé de faire ça et j'étais évidemment ravi. Puis après, j'étais paniqué quand je me suis rendu compte que j'étais dans une équipe de vrais pros. Mais ça a été vraiment pour moi une occasion de grandir un petit peu.
Et puis de retrouver dans une équipe bienveillante, hein, je suppose.
Oui, absolument.
Donc du coup, depuis tout à l'heure, on parle de BD collaborative. En fait, c'est une BD où vous retrouvez à 10, donc 9 autres personnes en plus de toi, où vous dessinez en fait une BD. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de comment s'est passée ta rencontre avec les 10 autres artistes ?
Tout à fait. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, chaque artiste illustre 2 planches.
D'accord.
Au moins, mais ça peut être, je crois que dans le cas de certains, ça a été même 3. Et donc, je vais vite fait citer les artistes en question, qui sont assez connus dans les milieux des arts graphiques rémois. Donc, on a Elbi, Capucine Ferté, Clémentine, connue aussi sous le nom des Dambi, Julie Delattre, Rucas Studio, qui s'appelle Lucas Cornil, Simon Vergnol, Victor Lejeune, Zoé Casanave et moi.
Oui, en effet, c'est des noms qu'on connaît bien à Reims, que ce soit dans l'artistique ou dans le culturel même. Ouais. Donc c'est un, comme tu l'as dit, un projet porté par Bocal, qu'on connaît bien aussi, et Sébastien Comez. Tu nous as parlé un petit peu de comment il est venu pour te récupérer dans cette aventure. Et comment il t'a un peu présenté le projet, lui, de son côté ?
Ben, lui, de son côté, son idée de départ, c'était vraiment le concept des BD collaboratives. Donc, l'idée qu'il y a un groupe, un collectif qui fait un ouvrage unique, avec une seule histoire, mais avec plusieurs illustrateurs qui donnent vie à cette histoire. Donc, assez vite, le problème, entre guillemets, du scénario s'est imposé, c'est-à-dire qui écrit les scénarios et comment.
Oui.
Et donc c'est Simon Vergnol qui s'y est collé en écrivant un scénario dont la particularité était d'être un scénario un petit peu ouvert, c'est-à-dire qu'il y avait un fil rouge, mais il a bien souligné le fait que chacun des artistes avait la possibilité de s'approprier de sa partie, de la pousser dans des directions un petit peu personnelles.
Au-delà de l'illustration, partir un petit peu sur de l'histoire sans trop se sortir de l'axe principal, mais
exactement,
de pouvoir y ajouter sa patte aussi.
En cherchant la cohérence avec les
bien
autres
sûr.
Planches, évidemment. Ça, c'est quelque chose qu'on a révisé toujours au fur et à mesure de l'avancement des étapes, toujours être sûr qu'à la fois, il y avait une liberté pour chacun des artistes, mais aussi qu'il y avait une cohérence de début à la fin sur la BD. Quoi.
En effet. Et donc, du coup, tu le disais, c'est une BD qui se partage. Vous partagez les plans, minimum 2, voire plus pour certains. Comment s'est passé le partage justement des planches, de l'ordre dans lequel qu'il apprend ? Est-ce que c'était en mode « Ah, moi j'aime bien ce passage-là, je le prends » ou c'était plutôt « Ah toi, moi je suis moins à l'aise, enfin, dis-nous tout ».
C'était un peu ça, c'est-à-dire une fois que le fil rouge du scénario a été établi, je crois que c'est Sébastien qui a fait une sorte de répartition des scènes, donc on avait plusieurs scènes. Et puis, toujours en communiquant entre nous, soit via mail, soit via WhatsApp, sur des plateformes communes, chacun avait la possibilité de choisir la scène qu'il voulait illustrer, avec les principes premier venu, premier servi. Donc je me suis, comme je vous disais, empressé de choisir la scène qui me semblait, enfin, que je me voyais bien illustrer. Voilà, et c'est comme ça que tout le monde a fait. Je pense, vu les résultats, j'ai déjà vu la maquette, je pense que tout le monde a bien choisi.
A pris du plaisir aussi dans ce qu'il faut faire.
C'est quand même assez extraordinaire, je n'anticipe pas trop, je ne veux pas dévoiler, mais c'est quand même, ça va être un très bel ouvrage.
On a hâte de lire tout ça. Donc du coup, on est sur vraiment quelque chose de très local, totalement rémois. Même dans l'histoire, on est, donc sans trop rentrer dans les détails, on est pendant une soirée qui se passe à la cartonnerie, si je ne me dis pas de bêtises. Est-ce qu'on peut en avoir un tout petit peu plus, si possible ?
Bien sûr. C'est d'ailleurs l'une des choses qui m'ont beaucoup plu, c'est-à-dire qui m'ont donné envie de participer, c'est le fait que c'est quand même une BD autour de la musique et autour de rencontres humaines qu'on fait autour de la musique. Donc c'est l'histoire d'un personnage qui va avoir un concert à la Carto. Au début, sans trop y croire, ça arrive à tous, parfois on sort les soirs.
Ouais, on se dit, ah, qu'est-ce qu'on fait, quel concert je vais voir, j'ai envie de me... Ouais. Je connais pas, je vais voir ce que ça donne.
C'est ça, on resterait bien chez soi à mater une série sur Netflix. Et puis en fait, finalement, à la fin des soirées, on est bien content d'être sorti parce qu'on a vécu des choses extraordinaires. On a encore plus lié avec ses amis. Et en plus, on a fait d'autres rencontres qu'on n'aurait pas fait si on était resté chez soi. Et donc, je pense que, je ne vais pas trop m'avancer, puisque voilà, je ne suis qu'un des illustrateurs, mais je pense que cette BD, il y a quand même cette thématique du fait qu'il faut se voir, il faut sortir, il faut être ensemble. C'est important.
Voilà. Oui, en effet, ça permet de montrer qu'au final, on peut vivre des choses incroyables sans les préparer, sans s'y attendre. Et c'est ça qui est cool, c'est un beau message.
C'est souvent les plus belles expériences sont celles auxquelles on était, pour lesquelles on n'était pas préparé.
Oui, c'est ça. Ouais. C'est souvent le moment où on vit, comme tu as dit, les meilleures expériences. On a dit, du coup, vous étiez 10. Est-ce qu'il y a eu des difficultés de travailler avec des styles différents ou de travailler avec les autres artistes, où c'est passé nickel, bonne ambiance, bienveillance?
Vraiment tout s'est passé nickel, c'est-à-dire que le collectif, je trouve même au niveau des personnalités, c'est que des gens extraordinaires. Il y a une grande bienveillance de tous les côtés, de la part de Sébastien, de la part de chacun des artistes, et une envie de servir l'histoire avant tout. Et les résultats, il est extraordinaire. Et ce changement de style qu'il y a à toutes les deux planches, et il est très dynamisant. Enfin, c'est pas quelque chose de gênant, bien au contraire.
Alors, du côté de Mo, on a aussi une autre question. Je te laisse y aller.
Ouais, ben je me demandais du coup si ça avait créé d'autres envies après, parce que du coup là, on est la tête encore dans le projet, puisqu'il n'est pas encore fini d'être financé, ce projet. Mais est-ce que il y a des liens qui se sont faits? Est-ce qu'il y a eu des envies encore de projets communs ou il est beaucoup trop tôt pour en parler?
Non, ben il y a sûrement. Déjà, je pense que, enfin, en ce qui me concerne, j'avais déjà un petit peu le rêve de faire de la BD. Donc là, je me suis dit, j'ai tellement aimé faire ce, même si c'est que deux planches, c'est facile. Mais j'ai tellement aimé l'exercice que je suis certain que je vais m'y remettre. Et puis, j'ai découvert encore mieux le travail des autres artistes que je connaissais, certains, pas tous. Et j'ai envie de faire partie de cet univers, de travailler avec eux. Moi, j'ai créé des spectacles musicaux pour jeunes publics dans lesquels l'illustration a une place importante. Et jusque-là, c'était moi qui m'en occupais. Là, j'ai un peu le projet d'en faire à nouveau. Et voilà. Il y aura un des artistes de ce collectif qui va travailler avec moi. Je ne vais pas trop dévoiler, mais je pense que voilà, ça a été un des résultats de cette collaboration.
Merci pour ce petit teasing. Comme Mo l'a dit il y a quelques instants, c'est une BD que vous avez réalisée, mais vous êtes là pour nous parler du coup du financement participatif. Il y a un Ulule qui est en place jusqu'au 30 juin. Vous avez la possibilité en fait de aider la BD à exister. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus justement de ce Ulule?
Ouais, tout à fait. Alors, c'est encore le principe du financement participatif qui est en soi un principe extraordinaire, je trouve. Et ça se passe super bien, c'est-à-dire qu'on a atteint le premier palier.
Il me semble, oui, vous avez atteint ça il y a un ou deux jours, c'était à 1100 euros, et là vous êtes sur le deuxième palier qui est à 1600 euros.
Oui, donc on vise les 1600, on a jusqu'à la fin du mois. Ça me paraît tout à fait faisable. Déjà avec les premiers paliers, voilà, on va pouvoir mener les projets à bout, donc c'est super. Mais avec les deuxièmes, on peut faire quelque chose en plus. On peut encore plus soigner les produits finaux, qui dans tous les cas, ça va être vraiment très classe. Et les contreparties, pour ceux qui participent au financement, sont vraiment très chouettes.
Oui,
c'est-à-dire qu'il y a vraiment la possibilité d'avoir... par exemple, des impressions, des storyboards. Donc, de voir comment ça se passe le travail de conception d'une BD. Et ça, c'est passionnant aussi, parce que quand on lit une BD, ben, on a l'impression que... Quand je lis des BD, j'ai l'impression que ces personnages que je vois, ils ont toujours existé. Mais en fait, il y a un travail de
dingue, de création, de conception, de brouillon, d'idées. Ouais. Oui, en effet. Et comme tu disais, les contreparties, elles sont vraiment géniales, parce qu'il n'y a pas que tourner sur l'illustration, il y a aussi tourner sur un faux vrai merch du groupe Caniche Laser. Et ça, j'ai trouvé ça incroyable. On a des t-shirts, des posters, enfin franchement...
C'est mieux qu'un vrai groupe, en fait.
Ah, mais finalement...
Bah, oui, ouais, oui, c'est mieux, parce que comme ça, on risque pas d'être déçu par la musique, comme on arrive parfois. Et donc, oui, donc, par exemple, il y a un des participants au projet qui est Grégory Sacré. Donc Grégory... qui est aussi connu sous son nom...
Gokaiju.
Gokaiju, exactement, qui, dont la spécialité est la création d'affiches alternatives. Donc, par exemple, pour Grégory, il prend un film connu, ou un manga connu, et il réalise une affiche alternative avec des techniques très variées et très complexes. Et donc, il a réalisé... l'affiche des Caniche Laser, du concert que notre personnage va voir ce soir-là. Caniche Laser, c'est un groupe imaginaire de punk, on imagine, mais au lecteur d'imaginer quel style de musique ils vont jouer. Et l'affiche, elle est top, elle est vraiment très très bien, moi je l'ai vue. Et ça fait partie, c'est une des contreparties qu'on peut avoir en participant au financement participatif.
C'est ça, il y a plusieurs paliers, c'est sur évidemment votre bon vouloir, c'est une sorte de don, et pour vous remercier de ce don, il y a aussi dans le tout premier palier à partir de 5 euros un remerciement qui se retrouvera dans la BD, donc vous pouvez retrouver votre nom, d'ailleurs cette BD qui sort en septembre, il me semble, début septembre je crois.
Oui, alors la sortie est prévue dans le cadre du Gabarit Fest, donc un festival des arts graphiques qui se tient tous les ans à Reims, qui va être cette année au manège à nouveau. Et la journée des sorties, si je ne m'abuse, ça va se passer à la librairie Amaury. Et ça va être une super journée. Il va y avoir aussi de l'animation musicale, du DJing aussi. Et vous aurez la possibilité de voir, d'être les premiers à voir cette BD qui, le projet est aussi de la mettre en vente après dans le cadre du Gabarit Fest.
Et ben en tout cas, super projet. D'autres questions de ton côté, Mo ?
Ben justement, je me disais, on la trouvera au Gabarit Fest, mais vu que ça sort chez Amaury, est-ce qu'après on pourra se la procurer chez Amaury, par exemple ?
Tout à fait, tout à fait. Va rester en vente là-bas. Donc c'est tout à fait possible d'aller l'acheter à la librairie. Et pour ceux qui veulent venir au Gabarit Fest, il y aura certainement un stand consacré à cette BD. Donc il y aura plusieurs façons de se la procurer. J'imagine aussi, en passant par Bocal, qu'il y a plusieurs plateformes sur le net, il est possible d'avoir une copie.
Donc pour trouver le lien du financement, on tape tout simplement Caniche Laser.
Sur Ulule, c'est le site un peu le plus connu pour tous les projets de financement participatif. Que vous allez sur Ulule, vous tapez Caniche Laser, BD collaborative rémoise. Et vous tombez dessus et vous allez voir, la page est vraiment très bien faite. Il y a toutes les infos. Il y a vraiment tout ce qu'il faut savoir. Chaque palier de participation est très bien expliqué. Les contreparties que vous avez en fonction de la somme que vous décidez de donner. Voilà, tout est très bien expliqué. Donc, je vous invite à aller jeter un coup d'œil.
Voilà, tout est à retrouver sur Ulule. Vous pouvez aussi retrouver plus d'infos sur Bocal, que ce soit sur leur Insta Bocal Reims ou sur le site si vous avez besoin de plus d'informations. En tout cas, merci Tommaso.
Merci à vous de m'avoir accueilli aujourd'hui.
Avec grand plaisir, et on espère se retrouver très vite pour plus d'aventures. Et je te souhaite une bonne continuation dans tes projets.
Oui, merci. Merci.
À deux pas de chez toi.
Vous êtes toujours sur Radio Primitive. Après la BD Caniche Laser, c'est à quelques pas des locaux de Radio Primitive que nous sommes allés rencontrer l'APF France Handicap à Orgeval.
Aujourd'hui, Morgane a eu l'opportunité d'interviewer des membres de l'APF France Handicap pour parler de l'organisation de la journée de sensibilisation à l'accessibilité qui aura lieu le mardi 30 juin de 13h à 17h sur le parvis de la gare de Reims.
Alors, je m'appelle Capucine, je suis chargée de développement aux actions associatives chez APF France Handicap, délégué délégation de la Marne. La délégation, en fait, elle représente l'acteur local de l'association. On propose plusieurs choses, des activités de lien social pour lutter contre l'isolement des personnes, qu'elles sont en situation de handicap ou non, parce que ça peut être des aidants ou des personnes qui adhèrent à la cause. Parfois, c'est seulement des personnes âgées, enfin, peu importe. On mène des actions de sensibilisation au handicap pour faire changer le regard sur le handicap. Et divers projets, on a le festival Humour et Handicap à la fin de l'année, l'école de la CEP qu'on fait en milieu d'année, début d'année.
Et vous êtes presque nos voisins, vous êtes sur le quartier Orgeval depuis un bout de temps déjà je crois.
Oui, on est sur le quartier d'Orgeval, alors moi je suis là depuis un peu plus d'un an, je sais pas ça fait combien de temps qu'on est sur le quartier d'Orgeval, mais plus de 20 ans au moins.
Et aujourd'hui, on est avec vous pour parler d'une action bien particulière. Peut-être que, avant de parler de l'action en elle-même, vous pouvez me dire pourquoi vous avez eu envie de monter ce type d'action.
Alors, les sensibilisations handicap, on en fait souvent à la demande des personnes, que ce soit des entreprises, des écoles, des associations. Le but, c'est d'avoir un moment d'échange sur un parcours de vie des personnes, ce qu'elles vivent au quotidien, les difficultés qu'elles subissent, et de mettre un peu les personnes en immersion du handicap. Donc on les assoit dans un fauteuil roulant et on a un parcours en bois qui simule les obstacles du quotidien. Et là, on s'est dit qu'on devait peut-être pousser un peu plus loin. Le but, c'est qu'on n'attende pas que les gens viennent vers nous pour les sensibiliser, mais se mettre sur un endroit où il y a du passage, où ça peut interpeller des personnes qui viendraient échanger avec nous et les mettre en immersion sur des choses un peu plus poussées que du handicap moteur, parce que les difficultés du handicap, c'est pas juste des obstacles moteurs. Donc que ce soit une déficience visuelle, une déficience auditive, une surcharge sensorielle liée à des troubles neurodéveloppementaux, on veut vraiment ouvrir le handicap au lieu de le réduire à quelque chose de physique.
Et avant de rentrer dans le détail, c'est une action qui a été menée sur plusieurs territoires, notamment à Chalon. Charleville. Est-ce que ça vous arrive souvent de faire des actions conjointes comme ça? Est-ce que vous voyez les différentes réactions sur les territoires? Comment ça se passe?
Alors, la délégation de la Marne travaille beaucoup avec la délégation des Ardennes, simplement parce qu'on a la même direction, donc on travaille en équipe. Donc là, on s'est dit que ce serait bien de mener l'action sur les deux principales villes des deux départements. Donc on l'a fait à Charleville le 18 mai dernier, pareil sur le parvis de la gare. Et alors, on n'a pas eu énormément de monde qui est venu se mettre en immersion, mais par contre, on a quand même vu beaucoup de regards, en fait. Et c'est déjà une étape, les gens qui voient nos pancartes, qui se posent des questions. On a eu des personnes qui sont venues échanger avec nous. Il y a encore beaucoup de gens qui ont la superstition de se mettre sur le fauteuil. Donc, ils pensent que le lendemain, ils finiront en situation de handicap, alors que bon, ça n'est jamais arrivé jusque-là. Et on se demande comment ça va être sur Reims. On sait qu'il y a un petit peu plus de passages au niveau de la gare. Donc, on ne peut pas encore comparer les deux, mais voilà.
Ça montre bien la phobie un peu que les gens ils ont là, avec cette superstition de se mettre sur le fauteuil et que potentiellement il leur arrivait quelque chose. Vous en pensez quoi, vous qui êtes en fauteuil tout le temps?
D'accord, l'image est pas forcément positive. Enfin, je trouve ça complètement absurde. Ouais. Enfin, c'est pas contagieux, c'est pas rigolo effectivement, mais bon, c'est pas non plus. Enfin, faut pas non plus dramatiser plus qu'il n'en faut. Enfin.
Bien sûr.
C'est assez
étrange.
Surprenant, oui, voilà.
Mmh. On n'a pas fait de présentation de votre côté, vous voulez bien nous dire quelques mots, ce que vous voulez.
Alors, je m'appelle Virginie, je connais la PEP depuis de nombreuses années, j'ai 50 ans, donc ça fait longtemps que j'entends parler d'accessibilité. Effectivement, beaucoup de choses évoluent, mais il y a encore pas mal d'obstacles. C'est vraiment quelque chose que je déplore et c'est très, très énervant.
Vous êtes motorisée?
Oui, ça change la vie, la motorisation. Ça permet de parcourir de plus longues distances de manière autonome. Et c'est vraiment bien. Sauf que bon, c'est assez lourd, donc on ne peut pas forcément porter un fauteuil pour monter une marche ou un fauteuil lourd comme ça. Il faut démonter, quand c'est possible, en tout cas, un fauteuil électrique, quand on peut démonter, c'est bien. Et donc, c'est pour ça que l'accessibilité, les rampes dans les commerces, devant les commerces, c'est essentiel pour l'accès à tous.
Pourquoi vous avez décidé, vous, de collaborer sur cette action de sensibilité, justement, avec l'APF? Ça vous tient à cœur que les gens fassent cette démarche de au moins essayer de se mettre dans la peau d'une personne qui a un handicap et qui... Enfin, c'est de l'aller vers aussi?
Bah oui, parce que je suis souvent... moi et beaucoup d'autres gens, nous sommes souvent confrontés à des problèmes d'accès. Et c'est très discriminant. Rester devant un commerce l'hiver quand il fait froid, pas pouvoir rentrer quand il pleut, et devoir renoncer à pas mal de choses parce que c'est pas accessible, je trouve ça vraiment, vraiment révoltant. Mm-hmm. Ça me révolte depuis de nombreuses années. Et c'est vrai que ça avance, mais vraiment...
On se dit tous les ans, quand même, depuis des années, ça doit bouger. On entend parler que il y a des logements qui doivent être faits spécialement avec des accès, en tout cas des bâtiments publics aussi. Comment vous le ressentez? Est-ce que vous sentez vraiment qu'il y a quand même une évolution sur ne serait-ce que l'urbanisme ou c'est pas suffisant? Ou les deux?
Ben, c'est pas suffisant. Enfin, ça devrait être la norme. Si tout était un peu mieux pensé dès le départ, peut-être que on rencontrerait moins de difficultés, ce serait accessible pour tous et puis on se poserait pas de questions. C'est une charge mentale supplémentaire et c'est difficile à vivre.
Qu'est-ce qui va se passer du coup le 30 juin si on voulait rentrer dans les détails, les actions de sensibilisation? Qu'est-ce que les gens ils vont pouvoir faire, tout simplement? On parlait de fauteuil tout à l'heure et du fait qu'ils ont peur de rentrer dans le fauteuil, mais est-ce qu'il y a d'autres choses?
On va simuler une déficience auditive, donc on aura le casque anti-bruit pour se rendre compte de vivre au quotidien sans entendre, ou très peu. On a créé une boîte à surcharge sensorielle, donc avec des bruits très forts dans un casque, de la lumière qui permet de se rendre compte que être en ville avec du bruit, des flashs, des choses, ça peut être très difficile pour une personne qui vit avec des troubles type autisme, TDAH, etc. Et puis, on a des personnes en situation de handicap qui seront avec nous toute la journée pour échanger aussi, pour partager leur parcours permettre de se rendre compte des difficultés au quotidien.
Mmh. On a parlé de se déplacer en ville, mais qu'est-ce qu'il en est de se déplacer hors de la ville? Comment ça se passe de devoir faire un aller-retour dans une ville pas loin? Là aussi, c'est compliqué de sortir de la ville. Et la campagne aussi, j'imagine que là, ça doit être le désert, quoi.
Mais la campagne, c'est la nature, c'est compliqué d'adapter les choses dans un milieu naturel. Enfin, on ne peut pas forcément tout adapter non plus. Après, ce qui est compliqué, c'est c'est les transports aussi, les bus, les cars. On doit toujours anticiper ses déplacements, toujours penser à demander si c'est accessible.
Les nouveaux bus, là, ils ont fait des nouveaux bus, là, c'est plus accessible quand même?
Ah oui, maintenant, oui, il était temps. Ça a mis des années à arriver. Tout comme le tramway, j'avais signé une pétition il y a dans les années 80, fin des années 80 peut-être, pour l'accès au. L'accès, enfin pour le tramway. Donc le projet n'avait pas été retenu, mais je suis bien contente qu'il y ait le tramway maintenant. Et les bus aussi, ça a eu beaucoup de mal à arriver à Reims. Mais maintenant c'est là.
Toutes les lignes ne sont pas encore accessibles et tous les arrêts ne sont pas adaptés à la descente avec la rampe, donc c'est encore compliqué de se déplacer pour les personnes. C'est encore une charge mentale supplémentaire parce qu'elles doivent aller chercher l'info de est-ce que je pourrais prendre ce bus-là ou pas, est-ce que je pourrais descendre à cet arrêt-là, c'est pas normal de devoir descendre à l'arrêt d'après et se rajouter du chemin parce que l'arrêt n'a pas été adapté, en fait.
Donc vous allez venir l'après-midi pour discuter avec les gens, c'est ça, rencontrer les gens?
Oui. Oui. Ah oui. Et les commerçants aussi, ce serait bien qu'ils se déplacent. Mais bon. Ouais.
Ouais. Vous sentez qu'avec une prise de conscience des gens, en faisant des actions comme ça de sensibilisation, ça peut faire bouger les choses quand même, que les gens ils se rendent compte?
Oui. Ça, c'est, il vaut mieux le faire que de pas le faire du tout. Mmh. Ça, c'est sûr. C'est vrai que quand on n'est pas confronté à un problème, bon ben, on se sent pas concerné et on dit que ça nous arrivera pas, que, mais bon.
Moi, je suis convaincue que ce que les villes mettent en place, les travaux pour adapter, c'est une question de volonté aussi. Hein. Il y a des villes qui n'ont pas beaucoup de moyens et qui mettent plein de choses en place parce qu'il y a des personnes qui ont envie de faire bouger les choses, que ce soit des maires qui se sentent concernés, hein, parce qu'ils sont eux-mêmes touchés, parce qu'ils ont des proches touchés, mais juste parce qu'ils écoutent aussi les habitants de leur ville et qu'ils ont envie de mettre des choses en place. On peut pas parler de... on parle toujours d'argent pour faire des travaux, mais bon, quand on voit tout ce qui est fait comme travaux en ce moment, enfin, il n'y a plus d'excuses, quoi. Faut peut-être un peu écouter les gens, penser aux gens. C'est pas comme si personne se plaignait en ce moment. Donc, voilà, je pense que c'est une question de volonté. Et si on essaye de mener ce genre d'action, au moins, nous, on aura le mérite de dire on essaye de faire ouvrir les yeux aux gens et... S'ils veulent pas nous entendre, bah, c'est plus de notre faute à nous, quoi. C'est à eux, là. Nous, c'est notre rôle de mener ce type de projet. Donc, si on nous écoute pas, on force les portes. Et après, je sais pas jusqu'où on peut aller, mais on a l'impression aujourd'hui que les politiques publiques s'en fichent, quoi.
Et on remercie l'APF France Handicap de nous avoir accueillis pour pouvoir parler d'accessibilité. À rappeler qu'une journée de sensibilisation à l'accessibilité aura lieu le mardi 30 juin de 13h à 17h sur le parvis de la gare de Reims.
À deux pas de chez toi, c'est terminé pour aujourd'hui. Si vous souhaitez réécouter cette émission ou la partager, vous trouverez facilement le podcast sur notre site internet radioprimitive.fr. À la semaine prochaine. C'était À deux pas de chez toi.
Voir qu'on redonne des sourires, ça fait toujours plaisir.
Votre magazine de reportages, de témoignages, à la découverte de Reims, ses habitants, ses habitantes et de ses alentours.
Faire ce qu'on veut, quand on veut.
On rencontre des personnes différentes, très différentes les unes des autres. Et c'est génial aussi.
À deux pas de chez toi.
Pour qu'ensemble nous puissions créer un nouveau monde dans lequel les femmes sont plus solidaires, plus unies, pour créer un monde où règne l'amour, la solidarité, l'entraide.
Prenez le temps d'explorer ce qui se fait sur notre territoire avec Radio Primitive.